Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit, Frédéric Dard. Alors, la nuit Frédéric Dard ou la nuit Saint-Antonio? La nuit Frédéric Dard, bien sûr, mais aussi la nuit Saint-Antonio. Comment parler de l'un sans évoquer, savourer, critiquer l'autre, ce commissaire immortel dont la vie littéraire a commencé il y a tout juste 70 ans, régler lui son compte, premier roman, réédité cette année au Fleuve Noir. Cette vie qui aurait pu d'ailleurs s'achever en 2000 à la mort de Frédéric Dard, mais puisque personnage immortel il y a, puisque ses aventures se poursuivent, ou si elles se sont poursuivies en tout cas pendant quelques numéros, quelques romans sous la plume de Patrice Dard. Alors, nuit Frédéric Dard, puisque nous pourrons entendre l'adaptation signée de Frédéric Dard d'un roman de Francis Carco, Jésus Lacaille, dans une réalisation d'Evelyne Frémy, diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 juillet 1968, ainsi que l'adaptation théâtrale d'un roman de Georges Simenon, La neige était sale, une mise en scène de Raymond Rouleau, première diffusion sur la chaîne nationale le 27 novembre 1950. Et aussi, nous entendrons l'intégralité de la série D'Avoix Nues. Frédéric Dard répondait aux questions de Jean-Louis Aisine, une série D'Avoix Nues qui fut proposée pour la première fois aux auditeurs de France Culture dans la semaine du 10 au 14 octobre 1988. Donc, nuit Frédéric Dard. D'autant que François Rivière viendra nous parler plus tard dans la nuit du théâtre signé Frédéric Dard. Alors, pas tout le théâtre bien entendu, mais quatre pièces, Les Salauds vont en enfer, La Dame de Chicago, Les Brumes de Manchester et Capone. C'est des pièces réunies sous le titre Le Brigadier de Frédéric Dard au Fleuve Noir. Frédéric Dard, San Antonio, sans doute aussi beaucoup, puisque la présence cette nuit de trois spécialistes très sérieux, puisqu'universitaires de San Antonio, en est la preuve formelle. Nous allons parler de San Antonio et aussi de Frédéric Dard. Enfin, ils vont parler de San Antonio, de son langage, de son originalité dans le roman noir français. Bonsoir Dominique Jeannereau.
Bonsoir.
Que dire de vous? Eh ben, vous êtes un spécialiste de Frédéric Dard, que vous allez publier très bientôt un essai qui s'appelle Frédéric Dard, romancier noir.
Tout à fait, absolument. Qui essaye de montrer précisément que Frédéric Dard est le colosse du roman noir français, un colosse un peu méconnu d'ailleurs, parce que ça a été un des pionniers, mais finalement c'est pas celui qu'on cite le plus souvent lorsqu'on fait l'histoire du genre. On pense à Léo Mallet, on pense à Manchette, et je pense qu'entre les deux, finalement, précisément, il y a Frédéric Dard qui est évidemment beaucoup, beaucoup plus publié que l'un et que l'autre, et que tous les autres auteurs de romans noirs, donc c'est un colosse assez unique dans le paysage du roman noir français, mais aussi étranger.
C'est parce que Saint-Antonio mange l'image de Frédéric Dard.
C'est la raison, exactement. Saint-Antonio est un peu plus complexe, alors que Frédéric Dard est véritablement un romancier noir, comme on l'avait montré en rééditant les romans de la nuit dans l'édition Omnibus il y a quelques années. Ces romans de la nuit sont véritablement des romans noirs qu'on peut mettre du côté de James Caan, du côté de Jim Thompson, du côté de ces auteurs américains des années 50, ou déjà des années 30 d'ailleurs pour certains.
Cette mort dont tu parlais, c'est toi le venin, des yeux pour pleurer, le monde charge, l'homme de l'avenue, la pelouse, une seconde de toute beauté. C'est vrai que c'est pas des titres de romans de Saint-Antonio, signé Saint-Antonio, mais c'est des titres, donc Frédéric Dard, les romans de la nuit que vous avez présenté, Dominique Jeannereau, il y a quelques années dans l'édition Omnibus. Merci. Dominique Lagorgette, bonsoir aussi.
Bonsoir.
Alors, vous êtes responsable de quelques colloques qui ont eu lieu à Chambéry il y a quelques années, enfin c'est très récent. Vous êtes professeur de linguistique à Chambéry?
Oui, à l'Université Savoie-Mont-Blanc et au laboratoire LLSETI. Et c'est nous qui éditerons d'ailleurs l'ouvrage de Dominique Jeannereau avec grande joie.
Bien. Alors, et vous avez déjà, alors ça c'était il y a quelques mois, donc réuni et édité quelques textes, quelques-unes des interventions de ces deux colloques sous le titre « Une fabrique de la transgression, la langue et l'écriture de Frédéric Dard, alias Saint-Antonio ». Thierry Gauthier, bonjour. Alors vous
bonsoir.
Êtes... Bonsoir. Si ça se trouve, vous ne connaissez même pas Frédéric
si
Dard, parce que vous connaissez surtout Saint-Antonio. Vous êtes quoi, le meilleur ami de Saint-Antonio?
Non, pas le meilleur ami, un des nombreux amis de Saint-Antonio, mais je crois que je connais aussi assez bien Frédéric Dard. Et en fait, je pense fondamentalement qu'il y a une vraie unité de l'œuvre, contrairement à ce qu'on pourrait croire au départ.
Sans doute. En tout cas, vous êtes le rédacteur en chef du Monde de San Antonio. Le numéro 88 vient de paraître.
Alors, c'est 89.
Une 89. Oui. Voilà, il m'en manque un. Alors, c'est une association, c'est-à-dire tout le monde peut participer ou il y a des quiz, il y a des questions. Il faut connaître toute l'œuvre.
Pas du tout. C'est une association qui est née en 1997. Donc, ça explique la longévité et les 89 numéros puisque la revue est trimestrielle. Pour le moment. Pas sûr qu'elle reste trimestrielle l'année prochaine, mais pour le moment, c'est un trimestriel.
97, donc, c'est du vivant de Frédéric Dard.
Du vivant de Frédéric Dard, oui.
Comment avait-il accueilli cette amicale?
Il avait accueilli très bien la naissance de l'association. Il avait même invité les fondateurs à déjeuner.
Où donc?
À Paris, dans un restaurant à Paris. Dans un déjeuner qu'il organisait à une autre occasion d'ailleurs, pour la sortie d'un petit San Antonio qui était la queue en trompette.
Quel était le menu, vous vous souvenez?
C'était un couscous.
Ah oui, donc c'est pas tellement un repas San Antoniesque ou mérurien?
Non, c'était...
En tout cas, vous avez préfacé aussi le San Antonio, Réglez-lui son compte, qui est réédité donc au Fleuve Noir, la toute première aventure de San Antonio, nous dit-on, qui n'avait pas été édité au Fleuve Noir d'ailleurs.
Alors, qui n'avait pas été édité au Fleuve Noir à l'origine. À l'origine, cette aventure avait été éditée chez un tout petit éditeur lyonnais, donc en 1949. Donc, c'est le 70e anniversaire, effectivement, de la création de San Antonio. Et, par ailleurs, c'est aussi le 70e anniversaire de la création du Fleuve Noir, parce qu'il se fait que le Fleuve Noir est également né en 1949. Donc, mais ces deux événements-là n'ont pas eu lieu au même endroit, si on peut dire. San Antonio est né à Lyon, donc chez ce petit éditeur, dans une belle édition cartonnée, jaquettée, etc. Mais ce livre-là a été... un essai qui n'a pas du tout marché à l'époque, et les éditions du Fleuve Noir ont récupéré San Antonio un peu plus tard, l'année suivante en fait, à la toute fin de 1950.
Et ils ont eu raison.
Et ils ont eu bien raison, puisqu'on connaît le succès qui en est résulté.
On est obligé de parler des chiffres quand même, des tirages des San Antonio. C'est vous, Thierry Gauthier, qui allez nous faire rêver.
Écoutez, c'est difficile, très difficile à dire les chiffres. On annonce des chiffres, on entend quelquefois 200 millions, 250 millions au total d'exemplaires
en France.
Vendus. En France, mais à part dans certains pays, il n'y a pas eu des tirages exceptionnels à l'étranger. Il y a eu beaucoup de traductions de l'œuvre de Frédéric Dard à l'étranger. Il y a eu une publication de Frédéric Dard ou San Antonio dans une trentaine de pays à peu près. Mais en général, ça n'a pas été de gros tirages, à part en Russie, par exemple, où il y a eu de très gros tirages. Pour certains titres.
Pour les Frédéric Dard ou pour les San Antonio?
Y compris pour les San Antonio en Russie. Mais sinon, les San Antonio ont été beaucoup publiés en Italie et en Roumanie, surtout. Donc, des langues qui sont peut-être un peu plus proches de notre langue. Donc, les San Antonio sont plus faciles à traduire dans ces langues-là, j'imagine, qu'en anglais, par exemple, où il y a eu quelques essais de traduction, mais ça n'a pas tellement marché, en fait.
Alors, Dominique Lagorge, je vais commencer par vous pour savoir, pour poser la question banale, mais comment, à quel âge avez-vous commencé à lire un San Antonio? Tout le monde a lu au moins un ou deux ou trois San Antonio. Parfois, il y a des gens qui n'aiment pas, c'est autorisé. Et puis, il y a des gens qui n'aiment pas, mais qui en ont lu une cinquantaine aussi.
Oui, ben alors moi j'avais donc 11 ans et c'était dans
11 ans.
Oui. Et c'était dans le bureau de mon papa et à hauteur de mes yeux, donc paf, j'ai pris Berrurier au sérail et je ne comprenais pas tout, je tiens à rassurer la population. Notamment les scènes de sexe, bizarrement, m'échappaient parfaitement. Et j'ai même été, je l'emmenais au collège parce que je lisais tout le temps, donc voilà. Et donc ma pauvre mère a été convoquée par le directeur, horrifiée. Et sa réponse était magnifique, puisqu'elle lui disait, bah si, elle va apprendre beaucoup de vocabulaire comme ça, monsieur le directeur.
C'est vrai, il y a un très beau vocabulaire.
Je pense que c'est un peu pour ça que je suis devenue linguiste d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une... ça virevolte. San Antonio, ça virevolte, c'est tous les registres de langue, c'est... il y a énormément de réflexions sur la langue, donc ça doit participer quelque part au fond de mon choix d'être linguiste.
Donc ça, c'est ces petits volumes que j'en ai un en main, comme ça, Fleuve Noir avec les dessins de Gourdon, c'est ça ?
Oui.
Les illustrations de Gourdon, alors qui n'ont sans doute aucun rapport avec ce qui se passe dans l'histoire, mais en tout cas, ça marche toujours. Et ça, on les trouve encore partout, ces livres. Alors, on les trouve chez les bouquinistes, etc., les marchands d'occasion, et puis on les trouve dans des maisons de famille, d'été, d'amis, etc. Et c'est là où on peut commencer à les lire, tardivement, et on lit... Ce qu'on lit, en fait, c'est les années 50, c'est les années 60. Ça vous, Dominique Jeannereau, vous avez commencé quand ?
Non, c'est une histoire, c'est drôle, Dominique ne m'a jamais raconté cette histoire-là, mais mon histoire est un peu la même. J'ai lu ça à 7 ans dans la cuisine, mais sur ordre de mes parents. Moi, dans mon cas, c'était encore plus fort. C'était mes parents qui voulaient me faire lire un passage de grammaire dans un dessin d'Antonio, l'ouverture de Duplon dans les tripes, où il y a un emploi du passé composé, tout à fait intéressant. Et c'était au programme de CE1. Et donc, j'ai lu du passé composé, et ça m'a bouleversé, parce que c'est une scène assez terrifiante dans laquelle San Antonio risque de se faire découpé en morceaux. C'est vraiment les premières pages de Duplan dans les tripes. Il est pourchassé par d'affreux nazis. C'est l'époque où San Antonio est encore un espion international plutôt qu'un commissaire de la police parisienne. Et finalement, c'est pas vraiment le passé composé qui m'est resté. C'est plutôt l'horreur de cette menace d'une scie circulaire qui risquait de le débiter comme un tronc, comme un sapin.
Vous avez dit que c'était au programme. C'est le passé composé.
Le passé composé, mais pas San Antonio. Mais c'est une question importante, effectivement, parce que San Antonio, de fait, certains de ses textes ont été mis au programme par certains éditeurs un peu dans cette période-là, d'ailleurs dans les années 70, dans les années 80, des manuels comme Bordas, par exemple Magnard, ont reproduit des textes de San Antonio, qui j'espère ont pu faire passer une génération supplémentaire à ses œuvres, en donnant le goût donc de sa langue à ses lecteurs.
Et vous, Thierry Gauthier ?
Moi, j'ai lu la première fois San Antonio grâce à un livre qui était présent dans une bibliothèque de classe, justement. Et l'enseignant était un certain monsieur Christian Prigent, qui est bien connu comme écrivain, poète, essayiste, etc. Et on connaît son goût pour les mots, pour le jeu avec les mots, etc. Et donc c'est ce Christian Prigent qui avait mis, en l'occurrence, Berruyer au Sérail, comme Dominique Laburgette. Qui avait mis ce livre-là dans sa bibliothèque de classe.
Alors, il faut comprendre quand même que quand on lit San Antonio, peut-être que chaque lecteur ou chaque lectrice de San Antonio commence par ne pas comprendre.
Oui.
Et c'est tout à fait
normal.
C'est ce qu'il faut.
C'est ce qu'il faut, je crois.
Et c'est le bon âge, donc 7 ans, 11 ans. Les parents qui nous écoutent peuvent comprendre qu'il faut leur faire lire du San Antonio dès qu'ils ont 7, 11 ans.
Moi, c'était un petit peu plus.
Faut voir chez soi, comme disait quelqu'un.
Oui.
Je sais pas. Si on peut recommander. En même temps, on s'en est très bien sortis tous les trois. On n'a pas l'air particulièrement traumatisés, si vous trouvez.
La nuit n'est pas finie.
Alors,
ce qui est intéressant, c'est que vous êtes professeur et que. Alors, est-ce que vous enseignez à San Antonio ou Frédéric Dard à vos élèves, vous, Dominique Jeannereau? Alors, en plus, vous, c'est un peu plus compliqué parce que vous n'êtes pas professeur en France, vous êtes professeur en Irlande.
Voilà, c'est d'autant plus difficile pour moi, mais j'aime la difficulté et j'enseigne donc effectivement à l'université de Belfast, à l'université Queen's, et c'est vrai que j'enseigne peu de San Antonio, j'enseigne plutôt Frédéric Dard. J'enseigne des romans brefs de Frédéric Dard, comme La Crève, qui est un joyau qu'il a écrit lorsqu'il avait 25 ans, qui raconte l'épuration de Lyon. Donc c'est le genre de texte que mes étudiants apprécient beaucoup. Mais j'ai des collègues qui ont, par exemple, fait traduire, et moi aussi du reste, des extraits de Frédéric Dard pour des examens, par exemple. Donc les étudiants ont parfois la mauvaise surprise de devoir traduire une page de Frédéric Dard en anglais, par exemple. C'est le genre de, ou inversement, enfin il y a eu pas mal.
Alors vous êtes professeur de français pour des étudiants de 20 ans
D'une vingtaine d'années, de 18 à... Alors il y a des étudiants de masters aussi, donc 23, 24 ans, 25 ans.
Ils sont très francophones ou il y en a qui commencent le français?
Non, par exemple j'ai fait des exercices de traduction là aussi plutôt de Frédéric Dard pour des étudiants de 19 ans qui n'étaient pas si francophone que ça, mais j'ai fait certaines pages de certains San Antonio du début aussi, dans des scènes qu'on pouvait faire dans des groupements de textes sur la guerre, par exemple, et sur l'occupation, en changeant un peu le vocabulaire, en donnant un petit peu quelques indications pour des mots trop difficiles. Mais il y a une évolution dans la langue de San Antonio. C'est vrai que le vocabulaire devient beaucoup plus riche à partir d'une certaine période, à la fin des années 50, années 60, ça se développe véritablement de manière débridée. Les textes du début, j'ai pas eu de difficultés particulières à les adapter pour faire des épreuves d'examen.
Est-ce que vous prenez un roman en français et vous le traduisez en anglais pour vos étudiants?
Je l'ai jamais fait en entier parce que plusieurs romans ont été traduits en anglais, donc comme il a été dit auparavant, sans beaucoup de succès. Donc ce qu'il faudrait faire, peut-être, ce serait essayer de retraduire certains de ces romans. Il y en a une douzaine qui ont été traduits. D'ailleurs, c'est les mêmes qui ont été traduits aux États-Unis. Ils ont été traduits par des traducteurs anglais. Et ils ont été ensuite vendus aux États-Unis parce qu'ils n'avaient pas tellement marché en France. Donc c'était une deuxième. En Angleterre, c'était une espèce de deuxième vie pour cette traduction anglaise. Mais il y a des gens qui étudient les traductions. Effectivement, de San Antonio, il y a des articles.
Alors, qu'aime-t-il ? Est-ce que c'est l'esprit français, grivois, rablaisien
ce qu'ils aiment lorsqu'ils le lisent en français ou la réponse est ce qu'ils aiment lorsqu'ils le lisent en anglais, c'est pas grand-chose, je crois. J'ai essayé de le faire lire à des gens qui n'étaient pas francophones et qui n'ont pas du tout accroché. Et c'est intéressant, par exemple, lorsqu'on lit dans le New York Times, The Review of Books, dans les années 60, on voit la déception des Américains qui s'attendent au nouveau Simenon, parce que c'est comme ça qu'il a été promu à l'étranger. Mais c'est le nouveau Simenon en termes de vente, mais c'est pas du tout le nouveau Simenon en termes d'histoire ou en termes d'intrigue. Et donc, c'est plutôt la grande déception. Et c'est l'expérience que j'ai eue avec les anglophones. Par contre, les francophones, les anglophones natifs qui lisent le français, ceux-là aiment beaucoup. Et en fait, ce qu'ils aiment, c'est le challenge. Ils se sentent, c'est ce qu'a dit Margaret Attack, une professeure à l'université de Leeds, très réputée, qui disait ce qu'elle aimait bien, elle se sentait flattée de pouvoir lire San Antonio parce que ça lui donnait l'impression de parler un français excellent. Oui. Le plus difficile à parler, véritablement, c'était le brevet supérieur. C'est la ceinture noire, troisième date. de la langue française.
Et vous-même, alors, par exemple, vous, Dominique Lagorgette, que faites-vous étudier?
Moi, je vais vous dire, je l'enseigne tout le temps. De toute façon, je m'en sers comme support pour à peu près tout. Quand j'étais en France, c'est langue étrangère, c'était avec les bilingues à Londres. J'ai fait un cours sur du poulet au menu pour la culture populaire à Manchester. Là, je m'en sers pour la grammaire, je m'en sers pour la stylistique. Je m'en sers pour former les profs de français, langue étrangère aussi, leur apprendre à monter des activités sur l'argot. Et moi, je le mets à toutes les sauces, hein, le pauvre homme. Là, si on n'aime pas San Antonio, en général, on est assez malheureux dans tous mes cours. Même en histoire de la langue, j'arrive à le caser. Donc, voilà. Mais, pardon.
Non, vous êtes là pour ça, pour parler et en bien de San Antonio et de Frédéric Dard. Sinon, vous ne seriez pas notre invité.
Parce que c'est très important aussi pour apprendre à jongler avec tout ce qui est grammaire, langue en général, métaphore, image. Il a une écriture très imagée dans les petits comme dans les grands volumes. On retrouve pas la même verve chez Frédéric Dard, roman noir. On n'aura pas du tout les mêmes niveaux de langue. Mais tous les autres, en revanche, on va avoir cette grande virtuosité, cette inventivité. Et quand je repensais à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux enfants, ben oui, après tout, entre ce qu'ils voient sur YouTube et un bon Frédéric Dard ou un bon San Antonio, franchement, il n'y a pas photo. Oui, finalement, vaut mieux qu'ils aillent lire du San Antonio. Ça leur donnera beaucoup plus de culture, à mon avis.
Thierry Gauthier, vous êtes professeur?
J'ai enseigné des matières scientifiques, donc je ne peux pas...
À la police scientifique, par exemple, vous auriez pu aller.
J'aurais pu faire ça, oui.
Il y en a qui se passent
de l'informatique,
à côté de
des
Lyon,
mathématiques.
Là.
Oui, c'est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, effectivement. Voilà. Il y en a un qui se passe là. Oui.
C'est pas le standage?
C'est le standage.
C'est le standage, bravo.
Ça y est, j'ai pas piégé, mais j'ai... Voilà, très bien, un point. Alors, Thierry Gauthier, vous aimez quoi dans San Antonio? Parce que le niveau de langue, très bien, ça permet de faire étudier la grammaire, de vérifier quel est le bon niveau des professeurs étrangers. Mais... Si on offre un San Antonio à quelqu'un, on va pas lui dire, tu vas voir, c'est formidable, la langue, c'est extraordinaire. Oh, quand même, si aussi. Mais théoriquement, il y a des intrigues, il y a des personnages.
Oui, je pense que ce qui domine quand on lit San Antonio, mais il faut en lire plusieurs, c'est qu'on a l'impression de rentrer dans l'univers d'un écrivain qui exprime ses, son ressenti de la vie. Donc c'est pas juste des histoires qu'il va nous raconter et puis il va y avoir une fin, etc. C'est ce qui est important, c'est la façon de raconter ces histoires et en même temps ce que lui ressent de la vie au moment où il écrit. Donc c'est en fait San Antonio, c'est une plongée dans la France de la deuxième partie du XXe siècle, vue à travers les yeux de Frédéric Dard. Et vue à travers les yeux de Frédéric Dard, c'est très important. C'est-à-dire que c'est vraiment cette personne-là qu'on ressent en lisant les San Antonio.
Alors vous avez parlé, il y a certainement de nombreuses périodes dans l'écriture de Frédéric Dard et dans les romans San Antonio. Mais alors, expérience personnelle, il y a quelques années, peu importe, comme ça, je découvre une dizaine de San Antonio, je vous dis, les vieilles éditions Fleuve Noir, alors ils avaient peut-être 20 ans déjà de parution, donc il est question de René Coty, de Vincent Auriol, on parle en franc, après il y a Le Général qui arrive, il y a la guerre d'Algérie, il y a des tas de gens. Enfin, chaque San Antonio, il y en avait 3 ou 4 chaque année parfois, donc évidemment, on est dans l'histoire. Donc, alors, c'est grivois, c'est rablaisien, c'est sympathique, on comprend pas tout, ça dépend de l'âge, voilà, si on a plus que 7 ou 11 ans, on comprend un peu plus. Mais en tout cas, on peut mettre ce livre entre toutes les mains. Et puis, on abandonne San Antonio. On le retrouve il y a quelques mois, par exemple, avec des nouveaux romans, des romans plus récents. Le tome 18 vient de paraître des œuvres complètes, donc de tous les romans de San Antonio chez Bouquin, préfacé par François Rivière, que nous accueillerons tout à l'heure, chez Robert Laffont, donc. Et puis alors là, surprise, San Antonio, le personnage, lui, il a pas trop évolué, mais quand même. Les autres, alors il y avait Pinault, c'était un vieil inspecteur, ou peut-être commissaire, j'en sais rien, qui était un vieillard, il avait presque 50 ans, donc c'était un vieillard terrible. Maintenant, le voici milliardaire, roulant en Rolls, il est resté dans la police, parce que il faut bien s'occuper. J'avais trouvé une petite Marie-Marie, qui était une espèce de petite Zazie, comme ça, qui était la nièce de Berrurier. Oui. Une gamine de 11-12 ans, la voilà presque mariée avec San Antonio, très incestueux, tout ça. Et puis il y a d'autres personnages comme ça qui ont évolué, Berrurier peut-être moins que les autres, et encore. Je me demande s'il n'est pas père de famille. En tout cas, San Antonio est père de famille. Oui. Vous hochez la tête, mais si on a
Berrurier est effectivement père de famille, devient père de famille dans les années 90, je pense.
Avec Berthe,
donc sur le tard, effectivement, d'un petit Apollon Jules. C'est une naissance tout à fait gargantuesque, rablaisienne.
Quoi, par l'oreille
Non, on n'ira pas jusque-là, mais l'écriture de ce moment-là est tout à fait rappelle l'écriture de Rabelais, hein, c'est clair.
Oui, donc quand même, les personnages évoluent.
Les personnages évoluent. Certains personnages n'évoluent pas au même rythme, effectivement, tous les personnages de la série n'évoluent pas au même rythme. On peut dire que San Antonio, Berrurier, vieillissent un peu, mais conservent plus ou moins le même âge, alors que Marie-Marie, elle, vieillit au fur et à mesure du temps réel. Donc Marie-Marie, qui est née, qui est apparue dans la série en 1968, d'ailleurs.
Viva Bertaga,
exactement. Dont d'ailleurs Berthe, l'épouse de Berrurier, était l'héroïne principale de révolutions qui se passaient en Amérique du Sud ou centrale, je ne sais plus exactement.
Géographie.
C'est un peu la Berthe Berrurier, c'est bébé, Bibi, comme Brigitte Bardot, et c'est donc
Viva Maria.
Voilà. Elle n'a pas exactement le physique, apparemment, d'après les descriptions de Frédéric Dard, mais
non.
Pas San Antonio.
Mais elle a l'impact, et elle a l'énergie sexuelle aussi. C'est un personnage sexué, très, très fortement sexué, Berthe.
Et à propos de il y a aussi un personnage. Alors, est-ce que San Antonio a un fils, c'est ça? Toinet,
oui.
Qui a l'air d'être un fils sexuel terrible.
Adoptif. Fils adoptif, oui.
Et qui sont les parents?
Les vrais parents sont des voyous.
Des gangsters.
Oui.
Ah, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le Saint-Antonio, il recueille les pauvres petits orphelins qui, dont il a tué les parents ou...
La naissance est affreuse d'ailleurs, parce oui. qu'on trouve son corps recroquevillé dans une valise par une prostituée, qui appartient à une prostituée qui se fait éventrer par un sadique. C'est une scène tout à fait affreuse, la scène de la naissance de Toinet. Donc il y a effectivement une vocation de samaritain chez Saint-Antonio et peut-être d'éducateur aussi, puisqu'il il va transmettre ses dons, ses talents et sa profession à Toinet, qui va devenir inspecteur de police et finalement qui prend la relève dans les nouvelles aventures de Saint-Antonio, écrites par Patrice Dard. Finalement, Toinet prend un rôle plus important, de même que c'est Patrice Dard, le fils.
Ah oui, parce que là, je viens d'en lire un où il avait 13-14 ans et donc il n'est pas inspecteur encore.
Non. Il va le devenir, il va passer voilà, dans Serial Killer, qui est le premier qui fait un peu la transition, le premier livre de Patrice ou le dernier livre de Frédéric Dard. On sait aujourd'hui que c'est le premier livre de Patrice, mais il a été commercialisé à l'origine comme le dernier Frédéric Dard. Là, effectivement, c'est le passage de relais de Saint-Antonio à Toinet, d'une certaine manière. Parce que Toinet, effectivement, réussit le concours de police à ce moment-là, justement de Saint-Cyr au Mont-d'Or, et donc il apparaît.
Mais on a quand même le souvenir de lecture de Saint-Antonio comme des moments amusants, en effet, tout le temps, etc. Et puis, dès qu'on repense, et si on ouvre un des romans, il y a quand même des scènes très, très sadiques, très épouvantables, très misogynes, non, Dominique Lagorgette?
Il y a le côté grand guignol qui est très important chez Frédéric Dard, puisqu'il en a écrit. Il a écrit des pièces pour le grand guignol.
On parlera avec François Rivière.
Il y a toute la tradition aussi du roman populaire, du roman qui donnera le roman policier plus tard, mais où donc là il y a énormément de destruction de corps. Il y a un rapport au corps très particulier aussi dans toute la série. Et même dans les hors-séries après, ce qu'on appelle les gros, c'est-à-dire ceux après 79, où il n'y a plus les membres de la série Saint-Antonio du type le mari de Léon, etc. Il y a aussi chez lui, je pense, une fascination pour la laideur humaine. C'est-à-dire qu'à chaque roman, il va explorer une nouvelle manière de faire le mal, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la grande question qu'il s'est tout le temps posée, en tant qu'homme et en tant qu'écrivain, à savoir comment se fait-il qu'on puisse aller aussi loin en étant un être humain, comment on arrive à faire subir ce qu'on fait subir aux autres êtres humains. Et ça, pour répondre un peu à la même question que celle que vous posiez à Thierry, je pense que c'est aussi ça, c'est qu'en fait, la fascination pour Saint-Antonio, moi, je lirais ses listes de commissions avec plaisir, d'autant qu'en plus, il en fait de temps en temps. Il y a un certain talent pour les listes, comme l'avait très bien montré Françoise Rullier, qu'on salue au passage. Mais il y a aussi tout ça, il y a toute la dimension philosophique et une philosophie très noire. C'est pas parce qu'on s'amuse énormément et qu'on rit beaucoup, c'est parfois un rire très sombre, c'est un rire grinçant. Il y a le rire de confort qu'on dirait presque enfantin, tellement ça fuse, parce qu'il y a des passages désopilants. Il y a vraiment des passages désopilants. Mais il y a aussi un rire très gêné. Il y a aussi des attaques régulières au lecteur.
Des moqueries.
Il se paye le lecteur assez régulièrement en lui reprochant toutes les laideurs de l'humanité.
Son inculture.
Son inculture totale.
Tu ne sais sans doute pas ce que ce mot veut dire, mais crétin, va regarder.
Pas avoir un dictionnaire, je veux pas que je te fasse la lessive aussi, etc., etc. Mais il y a une grande tendresse pour le lecteur. Donc on est tout le temps dans ce balancement entre grand amour et grande haine, admiration pour le monde, l'humanité, et puis l'inverse, c'est-à-dire... le fait d'être horrifié par ce que peut créer un cerveau humain comme type de perversité. Je pense que ça fait pas dans le porno, qui est un des pires, je trouve, sur la pédophilie. Et où vraiment on sent qu'il a mis beaucoup de son cœur, je pense, parce que ça le dégoûte, en fait. Il y a des choses que produisent les êtres humains qu'ils n'arrivent pas à comprendre. On dirait que l'écriture, c'est une forme d'exorcisme. Il va mettre tout ça à plat, et je pense qu'en l'écrivant, ça lui permettait certainement de... En tout cas, à nous, ça marche. Il y a un phénomène cathartique.
Mais il craint pas aussi, quand même, d'être complaisant, de faire plaisir à des lecteurs sadiques, Thierry Gauthier?
C'est toute l'ambiguïté. Mais...
De ce type de roman, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. De toute façon, c'est quelqu'un de profondément désespéré. Donc le rire, c'est évidemment le rire du désespoir. L'outrance, c'est pour combattre tout ça, c'est pour combattre le désespoir. L'outrance qui s'exprime dans l'écriture, qui s'exprime dans des descriptions parfois horribles. Oui, il va jusqu'au bout de l'humain. Il va chercher de quoi est capable l'humain. C'est né avec le roman noir et ça reste du roman noir.
Donc quand même la misogynie, quand même le machisme, tout ça, ça existe.
C'est pas... Ça, c'est autre chose. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Inattaquable, Frédéric Dard et San Antonio, Thierry Gauthier.
Non, pas inattaquable. Non, certainement pas.
On va parler du théâtre tout à l'heure avec François Rivière. On va écouter un extrait d'un feuilleton qui avait été diffusé dans les années 60, en 1967. C'était sur France Inter. C'est un extrait du 7e épisode. Vous allez reconnaître sans doute le roman dont est issu ce feuilleton.
Tu sais, Benoît, je voulais pas te froisser, mais ton massage à la mort-moi l'oreille, ça n'a pas dû lui réussir en présentant de la jaquette aragonaise.
Ah bon, on va voir. Ah bah ça y est, il nous a vu. Tiens, il s'arrête.
Regarde-le s'effondrer dans les pâquerettes. Tu parles d'une lope. Oh, petit minou.
Aïe, pauvre Chiron.
Oh, petit minou.
Pauvrecito, madame.
Oh, pauvre Décito.
Alors, petite tête de condor, hein. On a ses vapeurs comme une grande.
Oh, je suis bidé, Benoît. Aïe, madre mia. Chiron, il est foutu.
Mais non.
Mais pourquoi c'est ta faute?
De quoi?
Si, después de la crampeta, hijo de puta!
Oui, oh, de puta.
Comment il m'appelle?
De puta, je crois qu'il parle de ta grand-mère.
Ah bon? Oui. Ah bon, bah alors, bah, écoute, toi qui es Polycarpe,
glotte.
Tu vas y...
Hein? Glotte.
Non, bon, si tu veux, tu vas y expliquer avec ta glotte, comme tu dis, tu vas y expliquer le pourquoi du moment de la chose. Hein, on va l'aider. Bon. J'ai sur moi un rouleau de 50 mètres de nylon solide. C'était pour pêcher le saumon dans les Pyrénées.
Mais quel rapport?
Je vais attacher une extrémité à un bouchon que le giron se collera dans le bec. L'autre bout, on l'attachera à notre guinde. Et puis tu piges?
On va le traîner, mais dis-donc, c'est pas très réglo ton système.
Ah ben dis, c'est le système de l'aquaplane, mon bonhomme. Dis, et puis, ton catéchisme, hein, c'est l'église à côté, mec. Alors, écrase, hein. Dans ce tour, t'es pas mon supérieur héraldique, hein?
Ouais,
bon,
ouais,
alors
ouais.
Vas-y, je déroule mon film et prépare le bouchon. Pendant ce temps-là, tu lui expliques le topo. Et dis-y qu'il aura son grand prix de la montagne.
Bon, escuchame, amigo. Si. Est-ce le primero del Tour de France, ya, si ou non?
Si.
Bien, et alors là.
Ah, bah, si jamais j'aurais pensé me servir de mon nylon pour repêcher un tordu de la pédale.
Un extrait du 7e épisode de Vas-y Béru. Donc l'auteur c'est Frédéric Dard, l'adaptateur c'est Jacques Langeais, le réalisateur c'était Jean-Jacques Vierne, diffusé le 17 octobre 1967 sur France Inter. C'est un petit peu gêné, je suis sûr, par cet extrait, non? Homophobe.
Alors déjà c'est Béru. C'est Béru qui a l'idée de l'homophobie, or, enfin, l'acte homophobe c'est Béru, et Béru il représente le beauf. Donc là, du coup, il est porte-parole de tous les homophobes du monde.
C'est il vrai arrive à San Antonio, à la première personne, narrateur.
Il ne se débat pas non plus terriblement, le commissaire, pour empêcher cette action. Et en effet, il y a des remarques homophobes, comme vous disiez, il y a des remarques terriblement misogynes aussi. Et il y a parallèlement exactement l'inverse. Vous allez avoir des défenses des homosexuels, des défenses des femmes, des compliments aux femmes, qui à leur époque étaient tout à fait étonnants sous la plume d'un auteur aussi grand public. Donc déjà, il faut relativiser, parce que je veux pas ressembler du tout au pape, hein, mais c'est vrai qu'à certaines époques, il était de bon ton de dire, quand on était un mâle alpha viril, de tenir des propos homophobes, virilistes, misogynes, même racistes. On peut trouver des passages...
Oui, mais ça, c'est dans vous avez l'air de dire que ça pourrait être dans les premiers, mais plus dans les derniers. Moi, j'ai trouvé dans le tome 18, hein, San Antonio, des propos... Il y a un commissaire ou un inspecteur qui s'appelle Blanc et qui est noir, et qui est San Antonio l'appelle sinon Blanche-Neige. C'est pas pareil.
Ah non, parce qu'avec Jérémy Blanc, c'est constamment de l'insulte de solidarité, c'est constamment du jeu entre eux, hein, c'est-à-dire
la
que ça marche dans les deux sens. Ah oui,
folle de San Antonio et de Frédéric Dard le défendra jusqu'au bout.
Là pour le coup, Jérémy Blanc, il le porte au pinacle, il le complimente non-stop, il arrête pas de l'opposer à Béru en disant qu'il est 100 fois plus intelligent. Il y a énormément, justement, Jérémy Blanc lui a en créant ce personnage-là, de faire porter à San Antonio, dans cette interaction, son antiracisme. Alors là, c'est pas le côté fan club. Non, je reconnais tout à fait. Mais d'abord, j'ai pas à le défendre, et d'une, mais surtout, oui, il y a des passages très gênants chez Frédéric Dard, mais ce serait quand même assez ennuyeux, parce qu'il y a eu des bêtises écrites là-dessus il y a pas très longtemps, donc ça tombe bien que vous en parliez. Faut faire très attention aussi, c'est un cycle de 174 romans, donc c'est un bloc qu'il faut regarder, c'est-à-dire que travailler sur l'homophobie, voire le viol ou tout autre rapport aux femmes, qu'il soit odieux comme le viol ou tout à fait charmant comme l'amour, il faut regarder ça sur tout le cycle en fait. Et il faut faire très attention à justement ne pas s'en tenir à un passage qui n'est pas représentatif en fait de tout le reste.
C'est Dominique Jeannereau, c'est votre point de vue aussi ?
Oui, je pense qu'il faut beaucoup de probité lorsqu'on étudie Frédéric Dard. Comme on le disait tout à l'heure, lorsque c'est quelque chose, un discours qui est attribué à Berruyer, il faut savoir que Berruyer, il est appelé la souillure, l'abjection. Donc c'est une manière pour Frédéric Dard d'articuler un discours qui, au fond, lui fait peur, que ce soit le discours homophobe ou le discours misogyne. Donc c'est vraiment une lecture au premier degré, au ras des pâquerettes, que croire que ce discours-là, c'est le discours de Frédéric Dard ou de San Antonio. Il y a des lecteurs, comme par exemple Cocteau, qui, lorsqu'ils lisent San Antonio, écrivent ensuite des lettres à Frédéric Dard en disant « Je vous ai reconnu sous votre masque ». Et donc on peut se demander s'il n'y a pas chez San Antonio une manière de qui est véritablement fascinée par exemple par l'homosexualité. C'est quelque chose qui revient, donc comme vous l'avez dit, jusqu'à la fin.
Il y a beaucoup de voyeurisme homosexuel
absolument
masculin
beaucoup,
dans les derniers, me semble-t-il.
Absolument, exactement. Ouais. Et même, alors vous parliez de l'évolution des personnages, même Achille, le boss, donc qui commence comme un héros de la résistance gaulliste, finit finalement en homosexuel, littéralement honteux, parce qu'il représente quelque chose qui ne peut pas s'admettre, mais je crois que comme les différents personnages homosexuels dans la série, il s'agit pour Frédéric Dard d'articuler, de mettre en écho quelque chose qui peut pas forcément se dire dans les années 50 lorsqu'il écrit dans une collection populaire comme Le Fleuve Noir, qui est quand même un horizon relativement conservateur à l'époque, mais qui, pour des lecteurs avertis, comme l'était par exemple Cocteau, ne pose pas vraiment de problème ou qui laisse pas de doute. Il y a une fascination pour ces personnages qui sont souvent aussi des personnages positifs. Hein. C'est pas le cas d'Achille parce qu'il est honteux, mais il y a des personnages qui sont au contraire flamboyants, heureux, qui vivent une sexualité beaucoup plus épanouie finalement que d'autres personnages qui ne sont pas eux homosexuels ou qui sont beaucoup plus conventionnels.
Est-ce qu'on n'a pas perdu, par exemple, vous évoquiez les trois comme ça, le discours grivois mais flamboyant mais contourné, etc. Tout. Est-ce qu'on n'a pas perdu avec les dernières productions de Frédéric Dard? Parce que là, du coup, on va pas même citer les mots, mais vraiment, là, c'est la crudité totale et qui enlève quand même du style, quoi. Enfin, le style disparaît un peu quand on dit...
Qui n'enlève pas de style, mais ce sont des romans profondément sombres qui sont effectivement... je pense à des romans comme Le Pétomane ne répond plus, par exemple, qui est très très sombre. Tous les romans de la dernière période sont extrêmement... extrêmement dur, extrêmement sombre, oui.
Ça, c'est San Antonio ou...
C'est San Antonio, c'est San Antonio.
Le Pétomane ne répond plus, ça, il m'a échappé, celui-ci. Mais les titres sont extraordinaires. Est-ce qu'il les inventait et puis après il écrivait le livre ou...
Souvent, oui.
Quand on crée une amicale comme ça, vous avez créé l'amicale, oui. les amis de San Antonio, c'est pas parce que finalement on se dit... Voilà, c'était 3 ans avant la mort de Frédéric Dard, mais... Peut-être que ça, on a tellement envie de poser de questions à cet homme, à cet écrivain qui en a fait plus de 170 romans, San Antonio, mais tous les autres, et tous les scénarios de films, et toutes les pièces de théâtre, etc. qu'on n'aura jamais assez de toute sa vie pour lui poser des questions. Après, il disparaît. Donc,
c'est ça. En fait, on regrette de ne pas lui avoir posé des tas de questions, en fait.
Voilà, mais en tout cas, bon, vous pouvez vous les poser au cours de vos réunions et puis dans vos numéros spéciaux ou non spéciaux. Est-ce qu'il a tenté un jour de se débarrasser de son personnage comme d'autres l'ont fait ou ont voulu le faire?
Ce qu'il a tenté, c'est d'écrire d'autres livres. Ce qu'il a tenté, c'est de faire des livres sans San Antonio, effectivement. Mais il était rattrapé par le contrat et donc pendant longtemps, c'est autour des années 79. Donc c'est à peu près le 100e numéro, d'ailleurs c'est très exactement vers le 100e numéro de la série San Antonio qui arrive en 78, qu'il décide de prendre 6 mois pour écrire un autre livre. Il est tenu évidemment par des contraintes financières et contractuelles pour son éditeur également. Ça représente beaucoup d'argent, ça représente une maison d'édition. Et donc il va prendre 6 mois pour écrire Y a-t-il un Français dans la salle, et qui sera suivi par Les clés du pouvoir sont dans la boîte à gants, qui sont un immense succès et qui va donner naissance à une série de grands romans, 9 grands romans qui sont sans Antonio, enfin sauf le dernier, tout à la fin, Napoléon Pommier. Mais donc effectivement, ça s'est traduit par ça. Mais c'est aussi la fin où il a abandonné les Frédéric Dard. Il écrit plus de livres publiés sous le nom d'auteur de Frédéric Dard.
San Antonio donc, publie des romans sans San Antonio.
Voilà, c'est ça, des romans signés San Antonio, sans San Antonio le personnage, sans San Antonio la série, et qui sont un petit peu ce que Frédéric Dard concevait un peu comme son testament littéraire. Il a 60 ans quand il aborde cette cette partie de son œuvre. C'est un peu l'âge de Victor Hugo lorsqu'il écrit Les Misérables. Il y a cette idée, on veut vraiment écrire. Et d'ailleurs, il a comparé ça beaucoup au Misérables, un petit peu sa grande œuvre, à la fois polémique et très naturaliste aussi dans sa description.
Mais dans le premier roman donc que réédite Fleuve Noir, donc Saint Antonio réglait lui son compte, le cinquième chapitre se termine par cette phrase: je commence à en avoir plein d'autres, ce roman policier. Mm-hmm. Donc déjà en 49. Oui. Thierry Gautier.
Oui, parce que son ambition initiale n'était pas de faire du roman policier.
Ça faisait 10 ans qu'il écrivait, hein, déjà.
Il a commencé à écrire en 1938. Et son premier roman est paru en 1940. Donc le premier San Antonio en 1949, et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à 2000, l'année de sa mort. Hein, le dernier San Antonio est paru en 2000. C'est donc Napoléon Pommier, qui est un gros San Antonio, hors série, paru quelques semaines avant sa mort.
Mais pourquoi Frédéric Dard serait un auteur noir ignoré, Dominique Jeannereau, puisque c'est le sujet de votre livre, apparaître donc?
Il y a beaucoup de raisons. Je pense qu'il y a des raisons qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, liées au personnage de San Antonio, qui a pris toute la place. Et toute la place, c'est vrai que la truculence, le fait que ses romans étaient édités à 600 000, 700 000 exemplaires, étaient lus par des millions de lecteurs, à une époque que San Antonio dit qu'il a 16 millions de lecteurs, font que l'image de Frédéric Dard, c'est l'image truculente, rablaisienne, qui est très, très loin de celle du roman policier, à la fois du roman noir, à la fois celle du roman noir d'après-guerre, qu'on identifie au film noir, Hard-boiled, donc on est très loin de ça. Et évidemment, encore plus, et ça c'est une différence idéologique, du roman noir des années 70 en France, qui est le néo-polar, à la Manchette, à la ADG, ou bien à la Fajardi. Donc il est très loin politiquement de ses auteurs, il est très loin de l'univers de ses auteurs, et donc il n'a pas été véritablement compris comme ce qu'il était, c'est-à-dire un pionnier, un innovateur du roman noir qui a utilisé toutes les possibilités du roman noir dans certains de ses romans, les Frédéric Dard, donc qui restent à lire, il y en a une trentaine, 29 en tout, qui sont écrits d'ailleurs à la même période que Jim Thompson. Il y a une grande période de création pour Jim Thompson dans les années 50, et c'est aussi une grande période pour Frédéric Dard qui écrit ses 30 romans en l'espace de 10 ans. Donc ces romans de la nuit, ces romans noirs. Et si on relit les San Antonio, on découvre évidemment qu'il y a beaucoup de préoccupations du roman noir, hein, tout ce qu'on a dit aujourd'hui à propos de ses fantasmes, de ses phobies, de son travail avec la déchéance, avec l'horreur, avec l'abjection. Tout ça, c'est éminemment une littérature noire. Et donc Frédéric Dard, romancier noir, c'est non seulement dans ses romans sous son patronyme, mais c'est dans toute son œuvre en réalité. Et je crois que c'est très intéressant que même les pièces du Grand Guignol sont marquées par le noir. Tout est noir chez Frédéric Dard. Les grands romans qu'on a cités tout à l'heure, ça reste même des grands romans noirs au fond, d'une certaine manière.
Il y a des écritures différentes selon que ce sont les romans de la nuit ou les San Antonio par exemple, les romans hors série de la fin, mais c'est une œuvre d'une unité assez profonde autour du noir, autour de la solitude, autour de la désespérance, autour de... d'un profond pessimisme.
Enfin, vous n'avez pas créé, vous Thierry Gautier, l'amicale de Frédéric Dard, les habits de Frédéric Dard?
Non, parce que...
Les amis de San Antonio, ça...
Parce que...
Vous pourriez créer une association rivale, comme ça.
Pourquoi pas.
Il le faudra.
Souvent, ce sont les mêmes lecteurs, cela dit. Il faudrait qu'ils payent deux cotises, je ne suis pas sûr qu'ils...
Dominique Lagorgette, il y a eu beaucoup de textes réunis dans une fabrique de la transgression, la langue et l'écriture de Frédéric Dard, alias San Antonio, puisque c'était donc deux colloques qui ont eu lieu à Chambéry. Les parenthèses, justement, ça a été étudié, tout ça, les moments où Frédéric Dard écrit, là, il est peut-être minuit et 35, ou 43, et il dit, tiens, j'en ai marre de ça. Il peut le dire dans le roman, il peut dire, j'en ai marre. Il se met à parler d'autre chose. Et pourquoi?
Alors, nous autres, on a regardé avec Serge Amoré, nous avons étudié justement les notes de bas de page. On s'aperçoit d'ailleurs qu'à un moment donné, il arrête les notes. Il arrête les notes pour faire des parenthèses ou des digressions longues, et puis après, il revient aux notes, il aime bien, puis il garde les digressions. Quand même, parce que c'est pas parce qu'il y en a une qui va pas s'amuser. Il y a tout un travail comme ça de ce qu'on disait tout à l'heure d'apostrophe au lecteur, par exemple.
Mais c'est pas pour aller à la ligne du tout.
Il s'amuse comme un petit fou. Il est en train de déconstruire complètement l'écriture, c'est-à-dire que la note, elle doit d'habitude, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on regarde les fameux gros romans d'après 79, on a regardé, les notes, elles sont strictement classiques, c'est-à-dire informatives, hein, soit pour traduire un mot qui est étranger, soit pour donner une information. Alors que dans les romans de la série San Antonio, au contraire, elles servent à quasiment tout sauf ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir des digressions incroyables, il va y avoir des jeux, des clins d'œil avec les personnels du fleuve noir, hein, l'éditeur, le correcteur, le linotypiste... etc. Et puis évidemment le lecteur va, ou la lectrice, ils vont en prendre plein pour leur grade. Quand il ne va pas les draguer, enfin plutôt les lectrices.
Il a épousé d'ailleurs la fille de l'éditrice, je crois. Voilà. Bon, enfin bref, voilà. Dominique Jeannereau, Thierry Gauthier et Dominique Lagorgette, donc on vous retrouve en toute fin de nuit et vous allez suivre avec nous Jésus Lacaille et puis l'entretien, les entretiens que Frédéric Dard avait accordé à Jean-Louis Aisin en 1988. Vous écouterez François Rivière qui parlera du théâtre, donc. Et puis on écoutera l'adaptation du roman de Simenon. Ça a donné La neige était sale. Ça, c'était diffusé en 1960. Et puis après, tout le monde retrouvera dans sa bibliothèque ou dans les bibliothèques de ses amis ou dans les librairies du Frédéric Dard ou du San Antonio.